L'École supérieure des beaux-arts de Marseille, Grenouille et Euphonia s'associent pour accueillir en résidence le compositeur Pierre-Yves Massé. Après avoir entendu en février quelques-unes de ses compositions interprétées sur un acousmonium de 42 haut-parleurs, c'était une proposition de l'association Art en Réel, voici maintenant un temps d'échange et de travail à l'école d'art qui nous donne l'occasion d'enregistrer ce grand entretien. Pierre-Yves Massé, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, revenir quelques instants sur ta formation musicale. On peut dire qu'elle est assez contrastée, puisqu'à la fois tu as commencé ta pratique musicale en triturant des machines et un vieil Atari, dans un contexte plutôt rock'n'roll et en tout cas très improvisé, je crois, pour ensuite suivre ou subir, tu nous diras, une formation beaucoup plus académique au piano et dans un contexte de musique classique. Alors peut-être, quel souvenir tu gardes de cette formation et au-delà, quelle réflexion ça t'amène aujourd'hui sur la pratique de l'enseignement musical ?
Effectivement, il y a eu les deux choses dont tu parlais, donc la partie très empirique, où en fait mon frère était batteur, il avait ramené à la maison une batterie, et non seulement une batterie mais en plus des outils d'informatique musicale de l'époque, donc l'Atari effectivement, il faut être précis, hein, l'Atari, qui séquençait des synthétiseurs, des boîtes à rythme, choses comme ça. Et en fait, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéressait tout de suite, c'est de faire mes propres musiques, mes propres créations, donc j'ai eu tout de suite une envie de faire mes petits morceaux sans chercher à, sans me poser trop de questions, quoi. C'était vraiment très, très empirique. J'étais assez jeune aussi, j'avais 12-13 ans. Et je voulais pas faire de la musique à la base, hein, ça c'est important. J'ai même commencé par faire du dessin pendant très longtemps, je dessinais. Et un jour j'ai arrêté de dessiner, je me suis mis à la musique. Et donc c'est par ce biais-là, c'est-à-dire que je voulais pas commencer par l'apprentissage de l'instrument, le solfège, ce genre de choses. J'ai commencé par refuser ça. Et finalement, il arrive un moment où je me suis rendu compte que j'avancerais. Enfin, j'ai commencé à écouter un petit peu de musique classique, m'intéresser un peu à autre chose que ce que je faisais moi-même musicalement. Donc, à écouter beaucoup de musique. Et là, à ce moment-là, c'est fait jour la nécessité de passer par un apprentissage. Et donc, j'ai appris le piano puisque c'était l'instrument que je maîtrisais le plus a priori. J'ai fait un petit peu de percussion aussi, ce qui m'a amené à jouer en ensemble dans des formations type harmonie ou orchestre. Et je me suis vite arrêté parce que je me rendais compte que ça m'intéressait pas vraiment d'être interprète de musique. Que je n'avais pas la patience suffisante, parce que c'est vrai que pour vraiment interpréter au piano une partition, bah, il faut vraiment s'engager, il faut y travailler très longtemps, et moi j'avais plutôt envie de faire je restais dans cette logique de faire ma propre musique, et finalement je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait. Et alors donc par rapport à ça, effectivement, je me suis concentré sur ma pratique autodidacte parce que il y avait un problème par rapport à l'enseignement de la composition. Alors j'ai pas vraiment cherché non plus à m'inscrire aux cours de composition parce que il se trouve que j'étais en province et les cours de composition n'étaient pas forcément les plus adaptés à ce que je cherchais, notamment il n'y avait pas de classe d'électroacoustique au conservatoire où j'étais. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses s'il y en avait eu un. Et les classes de composition étaient réservées à ceux qui avaient le diplôme de solfège, donc il fallait avoir eu le diplôme de fin d'études, ce que j'avais pas. Enfin bon. Et donc par rapport à ça, je me suis éloigné de l'univers classique et je me suis plus concentré sur mes propres productions. Et effectivement, avec cette enfin, je pense maintenant, pour reprendre ta question sur la situation d'enseignement, que bon, évidemment, il se passe beaucoup de choses par rapport, notamment aux classes électroacoustiques dans les conservatoires. Mais globalement, on reste quand même dans cette idée que l'écriture, c'est réservé à ceux qui ont déjà une pratique instrumentale très très affirmée, qui ont leur diplôme de solfège. Et donc, ce truc-là me gêne un petit peu parce que ça, il y a toujours cette idée que la musique, ça se fait étape par étape, ce qui est pas faux, mais sauf que là, le cheminement est tracé d'avance et tient pas compte des désirs de l'élève. Et donc on considère qu'il faut d'abord, par exemple, le cliché, l'idée reçue, c'est il faut d'abord faire du classique avant de faire du jazz, il faut d'abord faire un instrument avant de composer, il faut d'abord, enfin voilà, d'abord savoir lire la musique avant de faire de la musique électroacoustique. Bon, ça évidemment, on revient là-dessus, enfin c'est pas aussi rigide que ça, mais il y a un petit peu de ça. Et du coup voilà, j'ai pris mes distances par rapport à l'univers classique.
Pour rester encore quelques instants dans le passé, peut-être même remonter encore un peu plus vers ton enfance. Il semble que tu entretiens une relation très forte avec le vinyle, avec les disques vinyles, avec ses bruits de surface, ses craquements. On dirait que le grand garçon que tu es devenu aujourd'hui ne cesse de s'émerveiller devant le son croustillant des vieilles galettes. Est-ce que c'est une sorte de nostalgie de tes premiers émois, peut-être devant la discothèque parentale ?
Non, pas vraiment. Mais la discothèque parentale était très pauvre parce que mes parents écoutaient très très peu de musique. D'ailleurs, plus du tout à partir du moment où ils ont eu des enfants, donc mon frère et moi. Donc c'était très silencieux à la maison. Il y avait la télé, mais pas de disques. Et les disques étaient là et la platine était mal raccordée à l'ampli. Donc du coup, ils avaient jamais réparé la chaîne. Du coup, ces disques-là ont été très longtemps une espèce de juste de présence matérielle, muette. Et je me lassais pas de les regarder, de les ouvrir, de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que c'est. Donc je voyais des noms, hein, Beethoven, Brel, enfin, pas des gens spécialement inconnus, mais, qui à l'époque m'étaient quand même assez obscurs. Parce que là, je parle vraiment de l'enfance, petite enfance. Donc tout ça était très abstrait, enfin en tout cas, pas vraiment relié à la musique. Et alors en ce qui concerne le vinyle, mon rapport au vinyle, finalement, il est assez mince, parce qu'il y a eu ça, donc ce rapport vraiment... un peu d'étrangeté, quoi. Et ensuite, c'était l'époque des CD. Moi, j'ai vraiment vécu l'arrivée du CD, enfin, la démocratisation très, très importante du CD. J'ai vécu le moment où tous les disques, enfin, une grande partie des disques qui existaient jusqu'alors en vinyle étaient réédités en CD dans les années 90. Et donc, du coup, il y a toutes les musiques que j'ai écoutées, je les ai écoutées sur CD. Ou je les copiais sur cassette. Enfin, à l'époque aussi, on faisait beaucoup ça. On avait les cassettes personnelles sur lesquelles on copiait les CD. Donc du coup, j'ai plus du tout touché au vinyle pendant très longtemps. Et ce n'est que récemment, avec cette composition à laquelle tu faisais allusion, Passage à Genève, que je suis revenu à ça. Mais pas tant par rapport à un rapport que j'aurais au vinyle, puisque finalement, c'était un rapport un peu manqué, quoi. J'ai jamais eu de vinyle, ou très peu, jamais eu de platine vinyle. C'est que récemment que j'en ai eu une. En fait, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à ce projet-là, un travail sur le passé et les sons du passé. Et là, du coup, le recours au vinyle prenait tout son sens, puisque le vinyle était vraiment, par rapport aux technologies récentes qui sont dématérialisées, là, le vinyle était pour moi une façon de retrouver l'aspect matériel de l'enregistrement.
On l'évoquait tout à l'heure, une double initiation musicale, un double langage, celui de l'échantillon, du sample, et puis celui de l'instrument classique. Deux modalités que tu as longtemps essayé d'articuler dans le même espace de composition, musique concrète et musique instrumentale. Tu penses que ce sont deux formes musicales qui avaient à un certain moment divorcé et qu'il conviendrait maintenant de réconcilier ?
Non, pas vraiment, puisque ça a été, il y a toujours eu des tentatives de rencontre entre l'instrument et la musique électroacoustique. Ce qu'on a appelé longtemps la musique mixte, enfin là je parle vraiment dans le domaine de la musique savante, il y a eu tout un courant, un moment de musique mixte où il y avait un instrument ou plusieurs sur une bande, et maintenant c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que c'est pas juste une bande, mais c'est des sons déclenchés ou du traitement en temps réel. Donc tout ça existe, il n'y a pas de... Moi, par contre, ma perspective était un peu différente. J'arrivais plutôt du rock ou de la musique pop, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et je découvrais le sample par cet intermédiaire-là. Et en même temps, j'étais soucieux d'écrire pour des instruments classiques. Je voulais, avec mon bagage, mélanger les deux. Et la façon que j'ai trouvé de le faire, c'était de sampler moi-même mes propres sons que j'obtenais avec les instruments. Et j'ai fait comme ça une série de compositions, dont Circulation, qui a été donnée ici même à Marseille en 2003 pour le festival Mimi, qui était une commande de Ferdinand Richard, où là, il y avait vraiment un jeu avec quatre instruments et des réponses entre ce que joue l'instrument et ce qu'on retrouve sur la bande. Donc il reprenait le dispositif de la musique mixte, mais en même temps d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'assez systématique dans le rapport entre la bande et les instruments, et puis aussi au niveau esthétique, quelque chose qui allait plus vers le rock, la noise ou l'improvisation.
Un parcours musical qui t'a amené à un certain moment à traverser les USA, notamment je crois à Los Angeles et puis à Berkeley, peut-être sur les traces des compositeurs minimalistes américains, qui sans doute à un moment t'ont beaucoup intéressé, et puis d'autres aussi sans doute qui ont été des sources d'inspiration pour toi. Je pense par exemple à Alvin Kouran, alors peut-être quelques mots sur ce compositeur qui n'est pas très très connu, mais qui semble avoir beaucoup de grâce à tes yeux, et puis sur d'autres inspirateurs que tu aurais pu rencontrer à cette occasion.
Alors, pour s'agissant de ce voyage à Berkeley, et en fait c'était une espèce de tournée qui était organisée par Véronique Larcher autour de compositeurs français qu'elle a voulu faire tourner aux États-Unis, puisqu'elle habitait à San Francisco à ce moment-là. Donc on a fait quelques concerts, une poignée de concerts et de conférences entre Berkeley, Los Angeles, San Francisco, Portland. Et là, effectivement, je me suis trouvé un peu dans mon élément, puisque j'étais en résidence à une école qui s'appelle CalArts, où ont enseigné toute la crème de la musique américaine, John Cage. Et il y avait James Tenney, un compositeur que j'aime beaucoup, qui est décédé en 2006, et que j'ai pu rencontrer à cette occasion-là, et avec qui j'ai pu avoir un échange, puisque c'est quelqu'un qui s'intéressait pas mal aux musiques de jeunes compositeurs, et vraiment quelqu'un d'une personnalité très... très intéressante, très passionnante. Et s'agissant d'Alvin Kouran, effectivement un compositeur américain qui hérite de toute la tradition, anti-tradition, puisque finalement c'est quelque chose qui n'est pas très traditionnel, c'est-à-dire qui se fait généralement en rupture avec la tradition, une certaine idée de la tradition. C'est aux États-Unis qu'il y a beaucoup de figures de compositeurs un peu marginales, comme Harry Partch, La Monte Young, des gens comme ça. Et Kouran est un petit peu dans cette lignée-là. Et ce qui me plaît chez lui, c'est son côté touche à tout. Il touche à l'installation, à l'improvisation, avec musique électronique à viva. Il touche à la composition pour instrument, la composition concrète. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui... il fait aussi bien des musiques atonales, bruitistes, que très tonales, sans être dans une volonté de retour. Enfin, pour moi, ça me parle beaucoup. Et c'est ça que j'apprécie, même si en fait il y a des compositions de lui que je trouve un peu mineures, mais ça c'est plus l'attitude globale, le personnage. Et alors lui, c'est à Marseille que je l'ai rencontré, donc c'est un peu... pour le coup, il n'a pas fallu que j'aille très loin pour le rencontrer, puisqu'il passait à Montevideo pour Inner Cities. Enfin, Inner Cities était joué par Dan Van de Waal, il était là pour la création française. Et il habite en Italie depuis maintenant une vingtaine d'années, je crois, ça fait déjà un petit moment. Et oui, effectivement, c'est un compositeur dont je ne cesse d'admirer le travail. Et puis encore une fois, la posture, là où il se place dans le champ de la musique contemporaine, c'est, il se place dans une espèce de niche, quelque chose d'assez singulier, un petit peu comme Luc Ferrari, qui était aussi quelqu'un de très, très singulier dans le paysage de la musique contemporaine française. Donc pour moi, Alvin Curran, ce serait un petit peu le cousin américain de Luc Ferrari, quelque part sur ce plan-là.
Alvin Curran, figure singulière de la musique, dans sa production, on décèle souvent, et tu l'as évoqué, une tension entre des termes contradictoires, entre l'improvisation et l'écriture, entre des formes minimalistes et puis à d'autres moments des formes assez spectaculaires. Dans ta pratique musicale, Pierre-Yves, cette tension, elle se résout pas, j'ai l'impression, dans la contradiction, mais plutôt dans une sorte d'ambiguïté. Est-ce que c'est conscient ? Est-ce que tu cultives l'ambiguïté dans ta musique ?
Oui. par rapport à ça, oui, peut-être c'est le côté français qui joue là. Je veux pas non plus faire de nationalisme à tout craint. Ça me plaît pas trop dans l'idée, mais il me semble que j'étais quand même assez marqué par des figures de la musique française assez classiques, comme Debussy, Ravel, Messiaen. Et je pense qu'il y a chez ces musiciens, notamment chez Ravel, c'est très, très net, un goût pour l'ambiguïté, pour le jeu en tout cas, quelque chose qui va faire jouer, donc du coup être dans une indécision, un flou par rapport à des choix qui seraient très marqués. En ça, ce sont des compositeurs qui ne sont pas du tout germaniques, puisque, au contraire, la musique allemande est très... elle fait des choix très, très marqués et très, très nets. Et la musique française, au contraire, joue un peu. J'ai l'impression, par rapport à ça, que je me situe... que là, pour le coup, je me situe bien dans une lignée française qui essaye de faire jouer, et jouer sur l'illusion, l'ambiguïté. Et ce serait, à mon avis, le seul élément, d'ailleurs, assez typiquement français qu'il y aurait dans ma pratique, ouais.
Oui, à part ça, le goût de la mélodie française, c'est pas exactement quelque chose qu'on retrouve dans tes compositions.
Goût de la mélodie, tu veux dire par rapport à la chanson ou... je m'intéresse beaucoup à la mélodie française de la fin du 19e et du début 20e, avec les compositeurs dont je parlais, avec Fauré aussi, que j'aime beaucoup. Donc non, ça m'intéresse, hein, tout ça. Oui, c'est... Et le choix de travailler sur des chansons françaises pour Passage en Vague n'est pas non plus anodin, même si finalement elle pourrait être autre chose que française, puisque je ne prends pas du tout les parties vocales, mais juste les parties instrumentales. Voilà, il y avait comme ça ce jeu avec la mémoire collective notre mémoire collective. Il y avait un jeu avec ça. Après, c'est pas du tout une défense, une glorification de ce patrimoine. Enfin, on est très très loin de tout ça. Mais encore une fois, par rapport à cette idée de l'ambiguïté, il y a l'idée de jouer avec ça aussi, quoi.
De l'ambiguïté à la complexité, complexité des relations entre l'improvisation et l'écriture, entre le hasard et le déterminisme, entre la musique dans l'instant et la musique fixée, sur la place du hasard, ou peut-être plus que le hasard, de l'accident dans ta pratique musicale.
Elle est variable, je ne pourrais pas faire de théorie ou de système global sur la place de l'accident. Disons que je pense que c'est un contrepoids au fait que j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler beaucoup en studio et sur de la musique fixée, et que la musique fixée par définition est non accidentelle, en tout cas elle incorpore l'accident et elle en fait quelque chose qui n'est plus un accident, qui devient quelque chose de fixé, une nécessité quelque part. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai longtemps cherché à utiliser l'instrument, au contraire, de façon à provoquer de l'accident ou de l'improvisation, pour contrebalancer ça. Et donc, dans des compositions comme Circulation, j'ai beaucoup enregistré de choses qui n'étaient pas vraiment des improvisations, mais des semi-improvisations à partir de... certains paramètres que je définissais, pour ensuite les enregistrer, et à partir du moment où c'était enregistré, tirer parti des choses que j'aurais pas pu moi-même composer. ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement, mais c'est ce qui fascine dans le hasard, c'est à quel point il va jouer contre une intention de composition, et à quel point il va délivrer le compositeur à un moment de la charge de tout penser à l'avance et de tout prévoir. Et je pense que ce qui fascinait Cage, par exemple, dans le hasard, c'est à quel point ça allait contre ses propres volontés, ses propres intentions, ses propres, peut-être ses tics ou ses habitudes de composition. Je pense que tout ce qui peut aller contre ça est bon à prendre pour un compositeur.
Bah, tu essayes quand même de ne pas établir une contradiction entre le hasard et la fixation sur un support. Je pense par exemple à certaines de tes pièces dont les acheteurs ont pu découvrir, en ôtant le cellophane du disque, quelle version effectivement était présente sur le disque. Donc c'est un jeu aussi de ta part.
Oui, là c'était effectivement un jeu. Ça effectivement c'était dans ma composition Crash Test 2, Pourquoi tu raccordes, où il y a vraiment le plus de jeu avec l'indétermination. Il y a une partie centrale où les musiciens jettent des pièces et jouent à pile ou face, ce qui est une allusion très très nette à Cage. Et sauf que là, bon, il y avait des règles du jeu qui étaient fixées. Alors pile, je ne sais plus d'ailleurs, pile c'était, il se sert de l'instrument, et face, il se sert d'un magnétophone à cassette qu'il a à côté de lui, et il appuie sur play. Enfin voilà, il y avait des actions comme ça qui étaient indiquées. Et donc tout ça créait une espèce de pièce très cageienne où les événements se déroulaient un peu de façon autonome et puis parfois des rencontres un peu totalement hasardeuses puisqu'elles étaient imprévisibles. En tout cas, le dispositif les rendait imprévisibles. Et donc, lorsqu'il a fallu enregistrer cette pièce, on s'est posé la question, mais du coup, on va fixer une version, c'est dommage. Et donc, on a enregistré 4 versions. On a retenu 2 parce que qui nous semblaient les meilleurs et on avait du mal à choisir entre les 2. Et alors c'est là qu'on s'est dit on va éditer deux versions du disque qui seront exactement semblables extérieurement, la pochette sera vraiment la même, mais à l'intérieur ce sera soit l'un soit l'autre, soit l'une ou l'autre des versions, de sorte qu'on ne sait pas avant d'acheter quelle version on a. Et donc le disque s'est disséminé avec ces deux versions. Et alors il y a aussi une chose intéressante, c'est j'ai essayé de mettre les deux ensemble, les deux versions superposées, et c'est très très bien. Je suis très content. Je trouve que c'est mieux d'ailleurs que les deux versions séparées. Et cette version est sur mon site.
Une manière de créer un objet très sensible pour les collectionneurs, puisque c'est un collector, j'imagine, une série de collectors. Est-ce que tu es toi-même collectionneur de disques ?
Non, pas du tout, non. Non, j'ai une collection de disques correcte, mais je pourrais pas me dire collectionneur, je suis pas du genre à claquer 1000 euros pour un disque introuvable, non.
Peut-être pour continuer sur cette notion d'écriture musicale qu'on vient d'aborder, quel rapport ta musique entretient avec l'écriture ? Alors peut-être pour commencer par exemple, quelle forme prennent tes partitions ?
Oh, ça dépend, il y en a qui sont vraiment écrites de façon traditionnelle, en 4-4, avec un tempo, des instruments... Il y a ça, et puis d'un autre côté, il y a la partition graphique que j'avais écrite, par exemple, pour l'ensemble d'improvisateurs de Jean-Marc Montera. Des partitions, voilà. Voilà, le titre en dit long. Où là, donc, il n'y a pas de spécification d'instrument, il y a 7 parties et des lignes de 3 couleurs différentes, rouge, noir et bleu, je ne sais plus, et avec un code selon la couleur. Donc là, on est dans une partition qui est complètement... complètement libre, qui rejoint les partitions graphiques qui étaient écrites dans les années 50 aux États-Unis. Donc voilà, c'est entre ces deux pôles-là, quoi. Et je fais jouer dans les partitions plus classiques des moments où il y a par exemple des réservoirs de notes, où il y a sur telle durée tel nombre de notes à jouer, telle hauteur à jouer, mais dans un ordre qui est libre.
C'est parti, chrono enclenché, course déclenchée, j'y vais. Mouvement des bras balanciers, bien régulier, les mains ouvertes tendues pour fendre l'air. Je cours, j'arrive sur le premier obstacle, je saute, le passe sans problème, bonne réception, perte de vitesse minimum, quelques foulées bien amples, mes mains fendent l'air, encore quelques foulées, je me penche en avant, pour passer sous le faisceau rouge, c'est bon, je n'ai pas touché, je suis toujours en course, oui, je cours toujours, foulée ample, balancier, bras mains ouvertes, j'arrive sur les obstacles à pleine vitesse, zéro piétinement, tac 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 tac, j'enchaîne les sauts, c'est beau, c'est bien, c'est vite et c'est ça qui compte, j'avance.
Au-delà de l'écriture musicale, quel rapport entretient ta musique avec l'écriture littéraire ou poétique? Je crois savoir que tu as collaboré avec plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, Christophe Fiat par exemple, qui me vient à l'esprit. Alors, peut-être quel rapport ta musique entretient avec l'écriture?
Alors ça, c'est vraiment des collaborations ponctuelles, c'est-à-dire que j'ai été amené à rencontrer des écrivains, bon, aussi parce que j'ai une formation littéraire, entre autres. Et du coup, les collaborations se sont faites autour de certains projets particuliers, donc c'est, voilà, c'est vraiment à chaque fois différent. Pour Christophe Yat, c'était un spectacle pour lequel il avait besoin d'une musique à un moment précis, pour une chanteuse. Donc là, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai composé une musique que j'aurais jamais faite tout seul. Et je pense que c'est l'intérêt des collaborations avec Général, mais là, c'était d'autant plus flagrant. Et sinon, avec Mathieu Larnaudy, donc, qui est par ailleurs un ami, on a comme ça plusieurs projets parallèles donc, qui touchent à la chanson pop ou à la pièce radiophonique ou à la performance. Et là, pour ça, c'est pareil. C'est-à-dire que je considère ça comme étant une partie un petit peu séparée de mon travail, en tout cas spécifique. Où moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois la contrainte que me pose le texte par rapport à la composition. J'aime bien les contraintes. Ça, enfin, je pense que beaucoup de compositeurs aiment ça. Mais j'aime bien l'idée qu'à un moment, je me confronte à quelque chose qui va m'amener ailleurs, à faire des choix qui finalement ne sont pas si nombreux. C'est-à-dire que j'aime bien me dire que le choix que j'ai fait là n'était pas tout à fait hasardeux et que par rapport à tout ce que je pouvais faire, j'en suis arrivé à presque la seule chose que je pouvais faire. Et avec Mathieu, voilà, c'est comme ça que je travaille. Il écrit les textes et moi, je les reçois. Il me laisse totalement libre, donc lui-même n'intervient pas dans mon processus de mise en son. Par contre, moi, je prends ces textes comme une contrainte et je les prends comme des objets formels que je réagence, dont j'essaie de conserver quand même le caractère textuel brut.
Cynthia est encore plus belle ce matin. Elle court sur la plage autour du lac artificiel en pensant à moi. Les écouteurs de son walkpod diffusent la bande-son qu'elle a adoptée comme hymne depuis qu'elle a emménagé dans notre zone de résidence provisoire et que lui a été attribué l'espace d'habitation voisin du mien.
Messieurs, exigez l'exigence du solide, du joli, du fiable et du simple. Participation égale anticipation égale adaptation égale satisfaction de plaisir. Ça, c'est important.
De l'écriture à l'oralité, à la parole, tu contribues à un projet qui est intitulé « Encyclopédie de la parole ». Tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, alors on est sept artistes, théoriciens, performeurs, enfin on est vraiment issus de champs disciplinaires très différents. Et ce qui nous relie, c'est une commune passion ou un intérêt pour la parole enregistrée. Donc on aime bien écouter de la parole, c'est ça qui nous relie à la base. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des archives donc dans plein de lieux différents, enfin de toute origine, aussi bien à la radio qu'à la télévision, que dans nos archives personnelles, de conversations courantes. Voilà, donc on compile tout ça, on collecte tout ça. Et à partir de ça, on établit des catégories, ce qu'on appelle des entrées, d'où le nom d'encyclopédie de la parole, qui nous permettent de les appréhender transversalement, non pas selon ce que disent les paroles, mais selon leur allure ou leur forme. Donc on a comme ça une dizaine d'entrées comme compression, pli, saturation. Et à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une parole saturée, indépendamment de ce que dit la parole, mais dans sa forme elle-même. Et à partir de cette question-là, on va comme ça chercher des exemples de paroles saturées, et à partir de ces exemples, on va pouvoir définir un petit peu ce que c'est que la saturation, donc pouvoir établir des sous-catégories. Donc il y a toute une partie théorique comme ça qui donne lieu à des articles, à des conférences, et une partie plus artistique qui donne lieu à des pièces sonores que je réalise ou des installations. On a même aussi un jeu, une chorale, une performance. Enfin voilà, tout cela produit beaucoup de formes très différentes.
Sur le corpus théorique qui est produit par cette recherche, où est-ce qu'on peut en trouver des traces ?
Oh, il y a un site qui s'appelle encyclopédie-de-la-parole.org où il y a à peu près 5-6 articles. Il y a aussi des extraits des pièces sonores, puis il y a une explication de tout le projet.
J'évoquais au début de cette conversation, on a pu récemment redécouvrir ton dernier disque, Passage en Vague, spatialisé sur un orchestre de haut-parleurs, 42 haut-parleurs. Pourtant, ce disque, il est classiquement enregistré sur deux pistes, en stéréo. Alors, sur la stéréo, justement, cette illusion, somme toute, assez pauvre d'un relief sonore, et qui est pourtant notre mode d'écoute courant de la musique, est-ce que ça n'est pas, au fond, un formidable mensonge, la stéréo, cette idée d'un relief sonore, cette idée que vous allez avoir le Philharmonique de Berlin dans votre salon? C'est ce qu'on nous vend depuis au moins une bonne cinquantaine d'années. Mais est-ce qu'au départ, c'est pas un peu prendre les mélomanes pour des imbéciles?
Bon, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce que de toute façon, l'illusion, on y est. On est forcément dans quelque chose qui a trait à l'illusion lorsqu'on parle de plan en stéréo, puisqu'on n'a que deux haut-parleurs. Et les plans, ils sont virtuels, puisqu'ils sont créés par la réunion des deux haut-parleurs, et ils ne fonctionnent pas si on enlève un des deux. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion qui est créé, mais moi je trouve ça plutôt bien, c'est-à-dire que ça permet avec deux haut-parleurs de créer des choses qui sont impossibles avec trois haut-parleurs finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est lié à la configuration stéréo et non pas à quelque chose qui incorporerait plus de haut-parleurs. De ce point de vue-là, on peut faire pas mal de choses avec la stéréo qu'on ne peut pas faire avec le 5.1, avec les acousmoniums. Donc j'ai un vrai respect pour ce que peut donner la stéréo. Après, je vois très bien ce que tu veux dire sur la haute fidélité. Alors là, c'est plus la question de la haute fidélité qui, moi, me pose problème que la stéréo en tant que telle. C'est-à-dire que l'idée que l'enregistrement, ce n'est qu'une copie d'un événement réel, et que finalement, l'enregistrement par défaut nous donne un accès direct à la chose, cette idée-là, je la combats. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît faux. Et donc la haute fidélité avec tout le côté publicitaire de la chose, c'est-à-dire qu'on va vous vendre du matériel qui vous permettra d'avoir chez vous la restitution la plus objective possible d'un orchestre symphonique. Effectivement, là, c'est de l'ordre de l'illusion, mais au sens plus négatif du terme, quoi. Là, un peu la duperie, quoi, marchande généralement. Mais moi, j'essaie de jouer vraiment, encore une fois, pour revenir sur la question de l'ambiguïté et tout ce qui a trait à cette esthétique de l'illusion. Moi là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Cela dit, j'aime beaucoup la mono aussi, et j'ai envie de... Puisque je travaille depuis quelques années sur du multicanal, donc plus que deux pistes. J'ai fait notamment pour l'Encyclopédie de la Parole, j'ai fait des pièces en 6 points, 8 points. Et à chaque fois, j'utilise le haut-parleur comme un point de son. C'est-à-dire qu'il y a un son qui est en mono dans un haut-parleur. Et du coup, je suis plus vraiment dans l'idée de plusieurs stéréos, mais dans l'idée de 8 monos, enfin pour une pièce en 8 points. Et par rapport à ça, il y a une espèce de retour à la mono qui s'effectue presque à mon insu, et j'ai assez envie de faire dans ce cadre-là notamment une pièce en mono, avec juste un haut-parleur, et vraiment assumer le fait qu'il y a une identité entre le ce qu'on pourrait appeler le corps sonore du haut-parleur et puis l'objet sonore qui s'en dégage.
Mais sur le rapport de ta musique à l'espace, lorsqu'elle est présentée sous forme de performance, il y a parfois, dans certaines pièces, des musiciens qui se déplacent volontairement en jouant de leurs instruments. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir sur la version qui est fixée en stéréo.
Oui, bien sûr. Cela dit, la stéréo apporte des choses qu'on ne peut pas avoir aussi en... dans une situation, comme tu disais, de musiciens qui se déplacent. La question s'est posée pour Crash Test, effectivement, puisque là, il y avait vraiment un jeu où le quatuor à cordes se mettait à investir l'espace du concert en se déplaçant d'un point à l'autre. Et sur la version disque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le plus possible de micros pour qu'il y ait une richesse au niveau des plans, qui ensuite allait être travaillée sur les volumes. Et ça permettait d'avoir des effets de contraste entre le lointain, le proche, enfin des choses comme ça qui sont totalement impossibles pendant le concert. Donc du coup, il y a un appauvrissement, mais il y a aussi un enrichissement. Et le recours à la technique est pâle. Donc là encore, le microphone n'est pas le parent pauvre de la situation de concert. Et c'est juste que ça amène à écouter autrement, différemment. Et ça, j'y suis assez attaché. La technique amène à autre chose. C'est pas juste quelque chose qui, par défaut, nous donne accès au réel ou...
Est-ce que tu masterises toi-même tes disques, ou est-ce que tu préfères confier ce travail à quelqu'un d'autre, peut-être pour un autre regard ou une autre oreille sur ta production?
Ça dépend, j'ai fait les deux. J'aime bien l'idée de confier mon travail à quelqu'un d'autre. Après, je suis quelqu'un d'assez maniaque, un peu perfectionniste. Et j'ai parfois du mal aussi à céder le bébé. La métaphore n'est pas très heureuse. Donc ça dépend. Quand je l'ai fait, c'était avec des gens vraiment de confiance, dont je connais le travail, et dont je sais qu'ils connaissent mon travail. Et du coup, ça s'est très bien passé à chaque fois.
Si on regarde l'ensemble de ta discographie depuis Faux Jumeaux en 2002 à Passage Genevec, qu'on a abondamment cité au cours de cet entretien, qui est sorti en 2009, en passant par Circulation, qui date je crois de 2005, et Crash Test 2 dont tu viens de parler, qui lui est sorti en 2006, est-ce qu'il faut y voir une continuité ou une succession de ruptures ?
Je dirais plutôt une succession de ruptures, mais ce ne sont pas vraiment des ruptures au sens où il y aurait une remise en question du système précédent, c'est plus... À chaque fois, ça polarise un aspect de ce que j'ai envie de travailler. Et je pense qu'on peut faire des ponts entre tout ça, malgré la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, on écoute les quatre disques, on se dit... on peut penser que ce n'est pas le même musicien qui les a faits. Mais en même temps, en creusant un peu la façon dont c'est fait, on repère très vite des similitudes, je pense. Enfin, après, je sais pas, c'est difficile de se mettre à la place de l'auditeur. Mais je pense qu'il faut... J'aime pas l'idée qu'il y aura une continuité, c'est-à-dire quelque chose de, un mouvement nécessaire qui m'aura amené de Faux Jumeaux à Passage Genevec. Mais évidemment, je suis pas non plus dans l'idée qu'il y aurait une espèce d'étanchéité totale entre ces quatre travaux, et une espèce de schizophrénie totale qui m'amènerait à faire des choses radicalement différentes. Je pense qu'il y a une continuité qui est sous-jacente, qui est présente. Mais je me soucie pas de cette continuité. Je pense qu'elle doit émerger d'elle-même. Si elle émerge pas, c'est pas si grave que ça. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque travail soit vraiment cohérent. Et donc, du coup, dans cette veine-là, je m'interdis pas d'aller dans des territoires qui me sont encore étrangers. Pour Passage Genevec, par exemple, ce que je voulais faire, c'était aller vers le sampling et la question de l'emprunt, de la citation, du plunderphone. Et je l'ai fait à ma façon. Et ça ne m'engage pas du tout à continuer dans cette voie pour les prochains disques. Il est même probable que je revienne à des formes plus proches de Faux Jumeaux, par exemple, mais qui seront évidemment différentes parce qu'entre-temps, j'aurais fait autre chose. Enfin voilà, tout ça m'intéresse, cette espèce d'altération continue de mon travail.
Tu n'as pas de reniement à l'égard de tes premières œuvres ou de tes premiers travaux ?
Non, pas du tout. Non.
Pour conclure cet entretien, tu es actuellement accueilli par l'École supérieure des beaux-arts de Marseille dans le cadre d'une résidence. On est, pendant l'enregistrement de cet entretien, entouré de quelques-uns des étudiants qui travaillent avec toi en ce moment. Alors je voudrais peut-être que tu nous expliques un petit peu ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de construire ensemble.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de préparer une exposition qui aura lieu en mai à la galerie de l'École des Beaux-Arts. Et alors, donc cette exposition est réalisée dans le cadre de l'atelier de Lucien Bertolina et Patrice Carré, atelier son. Et c'est sur la question du document sonore. Donc, a priori, c'est une exposition qui se polarisera sur des travaux uniquement sonores ou presque uniquement sonores. Et autour de cette question du document. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je l'ai abordé d'un point de vue plus théorique dans une thèse de doctorat que j'ai soutenue en décembre dernier. Et sur le plan pratique, ça m'intéresse aussi puisque j'ai pas mal travaillé autour d'archives, notamment pour le projet de Passage Genevec. Et il me semble aussi que la question du document est très, j'allais dire à la mode, en tout cas très dans l'air du temps. Globalement, c'est-à-dire que dans l'art contemporain, il y a quand même un mouvement qui ressemble peut-être à un retour au réel, ou en tout cas une volonté de montrer des objets qui sont reliés au réel, qui sont des traces de quelque chose. Et il me semble que dans le domaine du son, c'est encore un peu balbutiant. Enfin, ça s'est pas encore vraiment bien cristallisé. Enfin, bon, c'est moins visible. Et je pense que du coup, le travail est d'autant plus bienvenue autour de ça, puisque c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, qui à mon avis parle aux étudiants, mais je pense qu'ils pourront le dire eux-mêmes, et en même temps qui est quelque chose de relativement nouveau, un terrain à défricher, même si bon, c'est pas non plus totalement... La nouveauté radicale est difficile aujourd'hui, mais je pense que là il y a une petite niche qui est assez stimulante, et pour moi et pour les étudiants, dans le cadre d'une création artistique.
Merci Pierre-Yves Masset. Je rappelle pour conclure que ton dernier opus s'intitule Le Passage en Veille, qu'il est édité sur le label Brocoli, et que par ailleurs, pour en connaître encore plus sur ton travail, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur ton site www.pierreyvesmasset.com.